Bonjour tout le monde. Alors. Ah, sur Hanouka, c'est vrai, j'avais complètement oublié. D'accord, non, tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Le cours est sur Hanouka, effectivement. Donc, nous allons nous poser une question toute bête et tout simple. Pour quelle raison faisons-nous une fête à Hanouka? Oui, on fait une fête à... Pourquoi est-ce qu'on fait une fête à Hanouka? Récupérer l'indépendance ou bien... Quoi? La souveraineté, oui, c'est la même chose, oui. Le miracle. De la fiole. C'est-à-dire, si tu te fiches de ma fiole. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est une très bonne idée. Après tout, pourquoi pas ne pas parler de la fiole. C'est très bien la fiole. La fiole, elle est mentionnée dans la Gemara, dans Megillat Ta'anit également. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais vu qu'on fasse une fête pour un miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de faire une fête pour un miracle. La raison, pour, par exemple, vous donnez un truc tout bête, dans le livre des rois, il est question là-bas du miracle de la petite coupelle d'huile du prophète Elisha. Vous connaissez cette histoire? C'est écrit dans une des Haftarot. Hein. Il s'agit là-bas d'une femme pauvre et veuve, et qui n'a que deux enfants. Et comme elle a des dettes, alors le créancier vient à l'intention de venir prendre ses enfants en esclaves, en esclavage. Et très embêtée, parce qu'elle était la veuve d'un tzaddik et tout ça, Elisha se dit, il faut faire quelque chose pour elle. Il lui dit, va ramasser des ustensiles vides chez tes voisines. Elle remplit la maison d'ustensiles vides. Il demande, est-ce qu'il y a encore d'autres ustensiles? Non, j'ai tout pris. Et alors, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il me reste une petite quantité d'huile, à sourchamen, une petite coupelle avec de l'huile, c'est tout ce que j'ai. Il dit, commence à verser, et miraculeusement, tous les ustensiles se remplissent d'hectolitres d'huile. Une fois que tout cela est rempli, il lui dit, maintenant tu vas vendre cette huile, payer tes dettes et vivre avec le reste, toi et tes enfants. D'accord? C'est un miracle beaucoup plus grand que celui de la fiole d'huile, qui est une petite quantité qui a suffi pour 8 jours. Là, c'est des tonnes. Et on n'a jamais vu qu'on fasse une fête en souvenir de ce miracle. Donc le fait qu'il y ait un miracle, et même pour de l'huile, ne justifie pas encore l'institution d'une fête. Oui? Peut-être, j'en sais rien, il faut voir. On a toujours vu en tout cas que les fêtes commémorent des événements qui concernent l'ensemble du peuple. Si le miracle est un miracle de type collectif, par exemple le passage de la mer Rouge, alors c'est effectivement un miracle, et puis ce miracle il a des conséquences importantes au niveau de l'indépendance politique des Juifs. Donc c'est normal qu'on fasse une fête pour ça. Mais simplement pour le fait qu'il y a un miracle, non. Donc c'est vrai que le miracle de la fiole d'huile est connecté au retour de l'indépendance. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait tellement de cas de ce miracle. Surtout que ce miracle, pour tout vous dire, il faut savoir où se trouve sa source. Par exemple, si vous cherchez dans les écrits de Flavius Joseph. Flavius Joseph... L'historien, il était Cohen. Il a même servi dans le temple de Jérusalem. Il était, d'après ce qu'il affirme, de la descendance des Hashmonaïm. Et non seulement ça, il parle de Hanouka dans deux endroits différents de ses écrits. Et il ne parle pas de la fiole d'huile. Il dit seulement que la fête a été appelée la fête des Lumières, parce que c'était une grande lumière pour les Hébreux d'avoir retrouvé leur indépendance politique et religieuse. Mais la fiole, il en a chaud. De même, si nous cherchons dans la Mishnah parle de Hanouka dans 6 endroits différents, mais nulle part ne parle de la fiole d'huile. De même, si je cherche dans le Talmud de Jérusalem, il n'est jamais question de l'histoire de la fiole. Je cherche également chez les Géonim, par exemple, dans le premier livre écrit après le Talmud, le Sheiltot, il y a là-bas 8 pages sur Hanouka, avec des midrashim, des tas d'histoires très belles. Il n'est pas question de la fiole d'huile. C'est quand même bizarre, non? Bon, mais alors où est-ce qu'on en parle quand même? On en parle dans la Gemara, dans le Talmud de Babylone, et c'est une citation d'un récit ramené dans un livre plus ancien appelé Megillat Ta'anit. Là-bas, il est question également de la fiole d'huile. Mais on voit bien, pourquoi je vous dis tout ça? Pour faire remarquer que l'événement est secondaire, c'est-à-dire il n'a jamais été mis au centre des événements, bien qu'il soit vrai sur le plan historique. Il y a eu des apikoirsim qui ont voulu dire que ça n'était pas une réalité historique. Non, c'est une vérité historique, mais seulement ce n'était pas au centre. Et pourtant, c'est mentionné dans la Gemara, dans Shabbat, comme étant un point important. Alors là, il faut voir un peu de quoi il s'agit. Oui. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Flavius Joseph était Cohen, donc juif. Monsieur Cohen est un juif. Oui, bien sûr qu'il était juif. Son nom hébreu, c'était Yosef ben Matityahu. Non, c'est vrai que c'est le fils de Matityahu, mais pas le même. Matityahu est un nom qu'on trouve beaucoup. Par exemple, il y a un chanteur juif du nom de Matityahu, mais c'est pas lui. Quoi? Une barbe. Comment tu sais qu'il avait une barbe? Le chanteur, il a une barbe. Ah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi Flavius? Parce qu'il a adopté le nom de famille de son protecteur, qui était l'empereur Titus, qui était un Flavien. Voilà, c'est la raison. Josephus Flavius. D'accord? Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est donc de savoir comment est-ce que ça a été compris par les générations. Alors là, je voudrais vous citer un texte du Rambam. Comment ? Il y a 2 sources, en fait, qui se reproduisent l'une l'autre, en vérité. Je voudrais vous citer le texte du Rambam. Et la Gemara dans Maseret Shabbat. D'accord. Est-ce qu'il y a ici le Rambam ? Oui, bien sûr. Là. Nous avons ici donc en nos mains le Rambam dans le Mishneh Torah. 'Il nous dit la chose suivante. Bebaït Shenik chez Malchi Yavan Gazrouk Zerot à l'Israël, lors du deuxième temple, lorsque les rois de Grèce ont décrété des décrets contre Israël. Les ont aboli leur loi, ils les ont empêchés de pratiquer la Torah et les mitzvot, et qu'ils se sont emparés de leurs biens et de leurs filles, et qu'ils sont entrés dans le sanctuaire, qu'ils y ont fait des brèches, et qu'ils ont souillé les choses pures, et que cela a été très oppressant pour Israël et qu'ils ont été fortement opprimés, jusqu'à ce que le Dieu de nos pères les ait pris en pitié et les a sauvés de leurs mains et les a sauvés. Comment est-ce qu'il les a sauvés? Vegavro bene Hashmonai Akohani Magdolim. C'est alors que se sont renforcés les fils de Hashmonaï, les grands prêtres, Vaharagoum, et les ont tués. Veoshiru Israël mi Adam, et ont sauvé Israël de leurs mains. Ça veut donc dire quoi? Quand Dieu sauve, c'est quoi? C'est ce qu'il y a écrit? Je reviens ici sur le texte. C'est extraordinaire. Comme vous réagissez, comme si on n'avait pas lu le texte. Ça vous a des idées toutes faites. Et vous avez décidé que Dieu sauve, c'est le miracle. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit, je reprends. Jusqu'à ce qu'ils soient pris en pitié par le Dieu de nos pères, qui les a sauvés, lorsque les fils de Hashmonaï se sont renforcés et les ont tués et ont sauvé Israël de leurs mains. C'est donc quoi quand Dieu sauve? C'est quand Tsahal gagne. C'est ça qui s'appelle Dieu sauve. D'accord? Vous avez compris? Quand est-ce que Dieu sauve? C'est quand Tsahal a la victoire.
Donc c'est par une action d'une armée.
C'est quoi?
C'est par l'action d'une armée.
C'est par l'action d'une armée. C'est comme ça que Dieu sauve. C'est pas un miracle. Une action militaire, c'est pas un miracle. C'est quelque chose. C'est une intervention. C'est une intervention de Dieu, mais à travers des voies totalement naturelles. D'accord? Quoi? Et ils ont mis en place un roi parmi les prêtres. Vechazra malchut le Israël. Et la royauté, l'indépendance, est revenue à Israël. Pour combien de temps? Yeter al mataim shana ad achurban hasheni, plus de 2 siècles jusqu'à la destruction du temple. 2 siècles? Où est-ce que le Rambam a été chercher tout ça, que ça a duré 2 siècles? Non, pas dans Flavius Joseph. Il a lu ça dans le Midrash Seder Olam Rabba. Dans le Midrash Seder Olam Rabba, il est dit que le royaume des Hashmonaïm a tenu pendant 103 ans. 103, ça ne fait pas 200. Hein. Et que la dynastie d'Hérode a duré également 103 ans. 103 plus 103, ça fait 206. C'est pour ça que le Rambam dit plus de 200 ans. Ça veut dire que la raison de Hanouka, pour d'après le Rambam, et le retour de l'indépendance, mais pas simplement de l'indépendance au moment où ça s'est passé, mais tous les 200 ans d'indépendance font partie de la réjouissance de Hanouka. Petite question, qui étaient les rois qui ont régné sur Israël pendant la dynastie Hashmonaïte et la dynastie hérodienne? Les pires brigands de notre histoire.
Ménaché.
Ménaché, non. Ménaché était un roi de Yehuda, de la dynastie davidique à l'époque du premier temple. Mais Hérode, Alexandre Yanaï, Yohanan Orkanos, tous des salauds. Ah, mais tous. Pas Yohanan, le frère de Yehuda Maccabi. La première génération, c'était des gens bien. Yehuda Maccabi, Lazar, Shimon, Yohanan, tout ça, c'est des gens bien. Mais une fois que tout ça passe, alors ça devient des massacres dans la famille. Ils assassinent Chachamim. Les Hérodiens se lient d'amitié avec les Romains contre les Juifs. Enfin, des histoires à n'en plus finir. Des saloperies, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Hanouka. Ce qui veut dire que l'on est heureux d'être sous la domination des enfants d'Israël, même les pires d'entre eux, plutôt que sous la domination des Goïms. D'accord? C'est ça qui apparaît, en tout cas. Bon. Urshe Gavrou, Israël, Aloyvem, Veibdoum. Lorsque les enfants d'Israël ont détruit leurs ennemis, Bekafé, Bechodesh, Bekislev, Bechodesh, Kislev, Aya, c'était le 25 du mois de Kislev. Venichnesoula Echal, ils sont entrés dans le sanctuaire, Velo Matsu Shemen Tahor Bamigdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le temple. Et là, par Echad, si ce n'est une petite fiole, Velo Yaboladik Elayom Echad Bilvad, il ne suffisait à allumer que pour un jour. Et ils s'en sont servis pour allumer les lumières de la menorah pendant 8 jours, jusqu'à ce qu'ils aient concassé des olives, et produit une nouvelle huile pure. Donc d'après le Rambam, il y a ici 2 événements. Le premier événement, c'est la victoire. Le deuxième événement, c'est la fiole d'huile. S'il s'est passé 2 événements, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit 2 fêtes, soit 2 mitzvot dans la fête. N'est-ce pas? Umipnezé, à cause de tout cela, itkinu chachamim shebeoto ador, les sages de cette génération ont décrété, sheyush monat yamim haelu shitrilatam kafe bekislev, ils ont décidé que ces 8 jours qui commencent le 25 Kislev, Yeme Simcha Vehalel serait des jours de réjouissance et de Hallel. Ou Madlikim Bahem Anerot Baerev, et on allume des lumières le soir, Alpitre Abatim Bechol Laila Velaila Mishmonat Alelot, à l'entrée des maisons chaque nuit, de ces huit nuits, pour les Harot ou les Galot Anes, pour montrer et révéler le miracle. Veyamim Elu Emanikraim Chanouka, ce sont les jours qu'on appelle Chanouka. Donc, vous avez ici deux choses qu'il faut faire. D'une part, réjouissance et Hallel. Deuxièmement, allumer des lumières. Pourquoi deux choses? Parce qu'il y a deux événements. Quel est l'événement qui commémore la fiole d'huile? Quel est la halakha qui vient commémorer l'événement de la fiole d'huile? Allumer les lumières, n'est-ce pas? Et donc, à quoi sert le Hallel? Pour la victoire, l'indépendance. Ce qui veut dire qu'on fait le Hallel quand on accède à l'indépendance. Intéressant. Ça s'est passé trois fois dans l'histoire. Ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, puisque nous avons le Hallel pour les fêtes de la Torah qui commémore la sortie d'Égypte. La deuxième fois, lorsque nous avons été libérés de la domination grecque, et c'est la raison pour laquelle on fait le Hallel à Hanouka. Et la troisième fois, lorsque nous sommes libérés du joug de l'Empire britannique, c'est la raison pour laquelle nous récitons le Hallel à Yom HaAtzmaut. D'accord ? À Pourim, on ne dit pas le Hallel parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance. On est resté sous la domination perse. C'est ce que dit la Guémara. On ne peut pas dire Hallelu Avdei Hashem, louez vous serviteurs de Dieu, alors que nous sommes les serviteurs d'Achashverosh. Ça veut dire que tant qu'on est sous la domination des Goïm, on n'est pas des serviteurs de Dieu. On est des serviteurs des Goïm. D'accord ? C'est ce que dit ici la Halakha. Je ne fais ici que lire le Rambam. N'est-ce pas ? Je ne juge pas, je constate. Oui ?
Pour commémorer ces deux événements, on fait le Halel, c'est quoi ? Halel, c'est pour l'indépendance, pour
le miracle. Et puis pour le miracle, les bougies, enfin pas les bougies, les lumières qu'on allume le soir. D'accord ? Donc l'événement, la halakha essentielle de Hanouka, c'est donc le Hallel. La halakha secondaire, c'est les lumières. Vous avez compris? Contrairement à l'imagerie populaire qui dit le contraire. Jusque là, tout est clair? Très bien. Oui?
Pourtant, c'est pas la même indépendance qu'il y a eu à Hanouka. Elle est moins d'ampleur que l'indépendance qu'on a eu
actuellement. Parce que si même pour une indépendance aussi faible que celle des Hashmonaïm, on fait le Hallel, à plus forte raison quand c'est une vraie indépendance.
Qu'est-ce que ça change au final quand on va faire le Hallel,
Le Hallel, c'est un acte de gratitude. C'est-à-dire, c'est reconnaître, d'être remerciant l'Éternel de nous avoir restitué l'indépendance.
Il n'y a pas une signification profonde, enfin, je sais pas, parce que...
C'est extrêmement profond. Oui. Non, 200 ans de royauté d'Israël. D'accord ? Et ça s'est fait en deux dynasties. La première, celle des Hashmonaïm, l'autre, c'est celle des Hérodiens, qui étaient plutôt des héros que des diens. Oui, ça veut dire que, parce que ça concerne le clan d'Israël, ce qui se passe dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles dans le Beth Amikdash tous les jours. Hein ? Dix, oui, il y avait 10 miracles. Oui.
Pourquoi l'indépendance d'Israël, c'est vraiment un truc pour Hachem qui est...
Tout simplement parce que le projet de l'histoire pour la Torah, c'est un projet politique. C'est-à-dire quand Dieu choisit Abraham, il lui dit, tu vas te rendre dans une terre et fonder une nation. Une nation sur une terre, ça s'appelle un État. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que l'enseignement d'Israël, c'est l'enseignement aux nations, comment est-ce qu'une nation organisée politiquement est sainte. Et donc nous apprenons aux Goïm comment faire une sainte France, ou une sainte Chine, ou un saint Japon, par exemple. D'accord ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus sur terre pour enseigner le monothéisme à l'individu, pour ça l'islam suffit. Ce que nous venons enseigner, c'est la sainteté du politique. C'est le chidouche. Donc pour ça que c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si le judaïsme était une religion, on pourrait se dire, mais à quoi sert le politique? Mais comme le judaïsme est une nation, donc on comprend à quoi sert le politique. D'accord? Oui.
L'indépendance, c'est juste pour influencer les
autres nations. Disons que c'est une des fonctions que nous remplissons sur Terre. C'est également, c'est très important pour nous aussi. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas indépendant, alors on sert quelqu'un d'autre que Dieu. On sert le goy. Tandis que si on est indépendant, eh ben nous sommes Avdei Hashem, c'est ce que dit le Midrash, les serviteurs de Dieu. C'est bon? Bon. On peut continuer? Oui.
Si on sert Hashem, on n'est pas vraiment indépendant.
Si, parce que quand on sert Hashem, on rencontre la source de notre propre vie. C'est-à-dire, contrairement à toute servitude, qui est une servitude à un facteur étranger, tandis que quand c'est par rapport au Créateur, c'est moi-même que je retrouve. Comme disait Rabbi Yehuda Halevi, Eved Hashem hu levado chofshi. Il n'y a que le serviteur de Dieu qui est véritablement libre. Je peux continuer? Bon, c'est très bien. Oui, quoi encore? Maintenant, la question qui se pose, bon, c'est très bien tout ça, mais pourquoi tout cela s'est passé le 25 du mois de Kislev? C'est là que c'est tombé. Donc tu vas me dire que c'est un hasard. En fait, c'est impossible pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'un événement de cette ampleur ne peut pas être le fruit du hasard. Comme dit le Maharal de Prague, « Advari magdoli menam bemikrekara » les grandes choses ne se passent pas par hasard. Deuxièmement, quand on voit dans le livre des Hashmonaïm, on voit que Jérusalem a été libérée 2 semaines avant Hanouka. N'est-ce pas? Donc, ils auraient très bien pu tout de suite faire la fête ou l'inauguration du Beth Amikdash. Ils ont inauguré le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on appelle ça Hanouka. Hanouka veut dire inauguration. Et pourtant, ils ont tout préparé. Ils ont commencé l'inauguration le 25 du mois de Kislev. Il y aura une raison à ça. La raison est très simple. C'est que c'était la fête de Hanouka. Elle existait 3 ans avant l'événement. C'était l'inauguration du temple païen d'Antiochus 3 ans auparavant. C'est-à-dire 3 ans auparavant, le 25 du mois de Kislev, le roi grec Antiochus, comme on dit en français, avait souillé le temple en présentant un cochon sur l'autel et en introduisant une statue de Zeus olympien dans le Kodesh à Kodashim. Il avait donc fondé son temple païen le 25 du mois de Kislev. 3 ans plus tard, les Hashmonaïm bazardent tout ça et ils vont inaugurer leur temple, donc pour, en réponse à la Hanouka que faisait chaque année Antiochus. Bien clair? Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Antiochus a décidé de fonder son temple païen le 25 du mois de Kislev, mon flanc? Ah ben c'est pour lui dire, voilà, tu as voulu, et ben voilà, c'est comme ça, on fait le contraire. Ça, ça s'appelle nanani nananer. Ou un pied de nez, si tu veux. Voilà. Tandis, maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Antiochus a voulu fonder son temple païen dans le Beth Amikdash le 25 du mois de Kislev? Vous savez pas pourquoi? Ben parce que c'était le jour de la fête de Hanouka. De quelle fête de Hanouka? Pas celle des Hashmonaïm, ils n'étaient pas encore venus. Mais pour ça, il suffit simplement de lire dans le livre de Haggai. Haggai est un des derniers prophètes qui vivait à l'époque de la fondation du deuxième temple. Haggai prophétise alors que le temple n'est pas encore construit. Je parle du deuxième. S'il vivait au début du deuxième temple, donc il ne peut parler que du deuxième, je pense. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que le temple n'est pas encore construit et qu'il y a la sécheresse. C'est très embêtant qu'il y a la sécheresse, parce que quand il y a la sécheresse, on n'a pas de quoi manger. N'est-ce pas? On n'a pas de quoi manger, on est en danger. Alors le prophète leur dit... Vous avez qu'à m'écouter. Et là, je vous lis dans le livre de Haggai, en français Aggé. A G G E accent aigu E. Mais en hébreu Haggai. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Be'aisrim ve'arba latishiri. Lors du 24e jour du 9e mois. C'est quoi le 9e mois?
C'est le mois de la naissance.
C'est qui se lève? Ça? Oui. C'est-à-dire quand on arrive dans ce monde, c'est parce que la personne qui arrive, c'est la personne qui se lève. D'accord? Donc, le mois de. Lors du 24 qui se lève. C'est quoi ça, le 24 qui se lève? La veille de Hanouka, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le prophète reçoit une prophétie la veille de Hanouka. C'est quelque chose comme plus de deux siècles avant les Hashmonaïm. Lors du 24 du 9e mois, Bishnat Shtaim le Dariavesh, en la deuxième année de l'empereur Darius. Hayad Var Hashem, la parole de Dieu fut Begiad Haggai Anavi, les morts, dans les mains de Haggai, le prophète, en ces termes. Et qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Quoi Amar Hashem Tsevaot, ainsi parle l'Éternel Dieu. She'alna et Kohanim Torah, les morts, demande aux Kohanim qu'ils te disent la Torah. Hen Yisaïch Besar Kodesh Bichnaf Bigdo, si un homme porte de la viande sacrée dans le coin de son vêtement, Venaga bichnafo el alechem, et que ce coin touche le pain, velanazid et le ragout, vela yain et après le vin, vel shemen et l'huile, vel kolmaachal et tout objet et toute nourriture, hayikdash sera-t-elle sacrée? Vayanu akohanim vayom rulo, les kohanim répondirent non. Vayomer Haggai, et Haggai demanda, Im yiga temenefesh becholele haitma, si un homme qui a touché un mort touche ces choses-là, est-ce que cela deviendra impur? Vayanu akohanim vayomu hitma, et les kohanim répondirent au prophète, il sera impur. Vayan Haggai vayomer, et Haggai leur répondit, Ken amaze vechen agoyaze lefanai neum Hashem, ainsi est ce peuple devant moi, parole de l'Éternel, vechen kolma aseyedem et toutes leurs actions, vacher yakrivusham, ce qu'ils présentent là-bas, tamehu est impur. C'est-à-dire, il est intéressant de voir que le 24 du mois de Kislev, le prophète pense qu'il faut parler au Kohanim. Et de quoi faut-il parler au Kohanim? De pureté et d'impureté. Bizarre. Ve'ata simuna levafrem. Et maintenant, prêtez attention. Minayom azeva ma'ala, à partir de ce jour-là et après. C'est quoi et après? À partir de quel jour? Le 25 qui se lève. C'est-à-dire que le prophète nous dit, faites attention au 24, au 25 qui se lève. Miterem sum even el even be'echal Hashem. Alors qu'on n'a pas encore mis une pierre sur une autre pierre dans le sanctuaire de Dieu. Miyotam ba el aremat esrim. On s'approchait d'une quantité de 20 mesures. On voulait mesurer 20 mesures de blé. Vaeta asara. Mais il n'y en a eu que 10. À cause de la sécheresse. Ba el ayekev l'arsof hamishim pura. Il va dans le pressoir pour y presser 50 mesures. Vaeta esrim. Il n'y en a que 20. Iketi etrem bashidafon ou vayerakon ou vabarad. Je vous ai frappé par les maladies de la récolte et par la grêle. Et kolma asi adechem. Tout ce que vous faites. Ven etrem elai neum Hashem. Mais vous ne faites pas attention à moi, parole de l'Éternel. Simuna levafrem minayom azeva ma'ala. Faites donc attention à partir de ce jour. Miyom esrim ve'arba lateshi. À partir du 24e jour du 9e mois. C'est-à-dire, il insiste, comme on dit. Les minayom asher yusad echal Hashem, à partir du jour où a été fondé le sanctuaire. Simulé vafrem, faites attention. C'est-à-dire que le 24 du mois de Kislev, du temps de la deuxième année du roi de Dariavesh, on avait jeté les fondations de l'autel. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain, si on a fait l'autel? On commence à faire des sacrifices. C'est-à-dire que le 25 du mois de Kislev était le premier jour dans lequel on a fait des sacrifices lors du deuxième temple. Donc c'était la fête de Hanouka, du deuxième temple. Et alors à partir de là, le prophète dit que maintenant il y aura la bénédiction et qu'il y aura des guerres dans lesquelles Israël gagnera, etc. Ça veut donc dire que du temps d'Antiochus, les Juifs faisaient une fête de Hanouka le 25 du mois de Kislev. Et donc il a voulu souiller leur temple le 25 Kislev. Et donc quand les Hashmonaïm sont revenus, ils ont fait donc une troisième fête de Hanouka pour rétablir la pureté. Oui. Il y a eu d'abord Haggai, qui était présent lors de la fondation du deuxième temple. Après, il y a eu Antiochus, qui a souillé le temple construit du temps de Haggai. Et après, il y a eu les Hashmonaïm, qui ont rétabli l'indépendance et qui ont purifié le temple, et qui ont fait une troisième fête de Hanouka. Oui, toujours le deuxième temple. Tout ça, ça se passe dans le deuxième temple. D'accord ? Ont été faits à partir du 25 Kislev. C'est donc sacrifices d'inauguration, oui.
Ils faisaient le Hallel?
Non, pas du tout, ils faisaient pas le Hallel. Maintenant, le problème est de savoir, mais pourquoi les fondateurs du deuxième temple ont choisi de faire leur inauguration le 25 du mois de Kislev? Il doit bien avoir une raison. Quoi, la prophétie? Et pourquoi et quelle est la logique de la prophétie? Hein? L'inauguration du Mishkan, c'était le premier Nissan. Donc, ça ne tient pas à la route. Tout simplement parce que c'était la fête des Lumières. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Vous savez qu'il y a une fête, il y a une mitzvah dans la Torah qui est d'amener les prémices, les bikurim. Quand est-ce qu'on amène les prémices, les bikurim? À Shavuot? Pas du tout. Nenni. On commence à les amener à partir de Shavuot. C'est-à-dire que si j'ai des prémices, à partir de Shavuot, je peux les amener au Beth Amikdash. Le problème, c'est qu'on amène des prémices des sept espèces d'Eret Israël. Les grenades, à Shavuot, il n'y en a pas. Donc, je suis obligé d'amener les grenades plus tard. Et les dattes, non plus. C'est en été. Donc, je suis obligé d'amener les dattes plus tard. Donc, une grande partie des bikurim était amenée jusqu'à Soukhot. À Soukhot, on amenait souvent les bikurim qu'on avait laissé traîner depuis Shavuot. Mais il y a des fruits des sept espèces qui ne sortent de l'arbre qu'après Soukhot, c'est-à-dire les olives. Les olives apparaissent à peu près maintenant. Et donc, quelqu'un qui a des nouvelles olives, quand est-ce qu'il les amène au Beth Amikdash? Alors la Mishnah nous dit, jusqu'à Hanouka, il peut amener. C'est-à-dire que la fin de la mitzvah dans la Torah d'amener les bikurim se situe le 25 du mois de Kislev. Maintenant, qu'est-ce que fait une société agricole à responsabilité limitée? Et non, une société agricole à l'époque, quand elle a fini de récolter les olives, eh bien, elle fait une fête. Une fête de combien de jours? Ben 8, comme pour la fête de Soukhot, parce qu'on a fini d'engranger. De même que la fête de Soukhot, c'est Chag HaAsif, quand on a fini d'engranger le blé, et bien de même, la fête de 8 jours, qui se fait à partir du 25 Kislev, c'est parce qu'on a fini de récolter l'huile, de faire récolter les olives. Et quel est le contenu d'une fête de ce genre? Ça tourne autour de quoi? Ben de l'huile. Donc on allume des lumières, on mange des beignets. Et comme c'est l'hiver et qu'on est coincé à la maison, on joue avec une toupie. Donc, depuis longtemps, nos ancêtres avaient une fête des Lumières le 25 du mois de Kislev. C'est pour ça que lorsqu'ils ont construit le deuxième temple, qui était avec moins de Shekhina que le premier, et donc qui ressemblait à une lumière dans l'obscurité, c'est pour ça que les prophètes nous ont dit, il faut faire l'inauguration du temple le jour... Justement, on fait de toute manière la fête des Lumières dans l'obscurité. C'est très bon, ça commence à expliquer bien des choses. Mais alors dans ce cas-là, le problème est de savoir qui est le premier à avoir fêté les Lumières le 25 du mois de Kislev.
Yahushua.
Pourquoi Yahushua?
Il est venu après
tout simplement le premier homme. Le premier des hommes, Adam Harishon, la Guémara nous raconte dans le traité de Ta'anit qu'il y avait une fête chez les Goïm qu'on appelait les Saturnales. Qui
Adam Harishon, quoi?
Il y avait une fête chez les Goïm, non, chez les Romains, qu'on appelait les Saturnales. D'où vient cette fête? Alors la Guémara nous dit, c'est parce que lorsque Adam Harishon a péché, ça s'est passé en Tishri, n'est-ce pas? À Rosh Hashanah. Et après qu'il ait péché, il a vu que le monde, que les nuits devenaient de plus en plus longues et les jours se raccourcissaient. Il s'est dit, malheur à moi, c'est parce que j'ai péché que le monde est plongé dans l'obscurité et qu'il va revenir au néant. Et donc, il s'est mis à pleurer et à jeûner pendant 8 jours. Et puis, il a vu le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? Le plus court. C'est quand? Le 21 décembre. Et qu'il a vu que les jours allaient en s'allongeant. Combien de temps ça prend pour voir que les jours s'allongent? Non, 3 jours suffisent. Alors il a compris que ça c'était dans l'ordre de la nature, Minago chez l'Olamou, et il a fait une fête de 8 jours, depuis le 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Et comment? Parce que 7, c'est la nature, ce qui remonte sur la nature, c'est 8. Et donc il a fait une fête de 8 jours pour fêter la lumière. Et la Guémara dit, lui, il l'a fait en l'honneur de Dieu. Et les goïms s'en sont servis pour la Avodah Zarah. Ce qui a donné la fête romaine des Saturnales, qui plus tard est devenue la fête chrétienne de Noël. D'accord? Maintenant, quand est-ce que tombe le 24 décembre au soir dans le calendrier hébraïque? Ça dépend, ça bouge. En moyenne, le 25 qui se lève. Ce qui veut donc dire, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez souvent Hanouka et Noël qui sont proches l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fête universelle qui, dans l'histoire, se traduit à travers Adam Harishon et qui, après, passe par nous également et devient la fête de Hanouka. Maintenant, la question est de savoir, mais si c'est vrai cette histoire, ça veut donc dire que ça commence par le fait que la lumière a commencé à devenir plus intense à partir du 25 qui se lève. Mais pourquoi est-ce que la lumière devient plus intense à partir du 25 qui se lève? Parce qu'il y a une orientation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil qui fait qu'il y a des saisons, n'est-ce pas? Et cet axe, cette inclination de l'axe, qui c'est qui l'a décidé? C'est Hachem. C'est donc Dieu qui fait sa fête des lumières le 25 du mois de Kislev. Et si on devait voir est-ce que c'est logique, lisons un peu dans la Torah. Vous connaissez les premiers versets de la Torah? Vous savez compter jusqu'à 25, n'est-ce pas? Alors on va y aller. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz, ve'aretz haita tohu. On a fait combien déjà? 10. Vavou, vechosher, al, pene, tehom, veruach, Elohim, rachefet, al, pene. On est déjà arrivé à 20. Hamayim, vayomer, Elohim, yehi. Oh, tiens, le 25e mot de la Torah, c'est lumière. Bizarre. Et c'est dans le 3e verset, c'est-à-dire ça correspond au 3e mois après le début de l'année, si on commence à Tishri. Ça veut donc dire qu'en fait, il y a, dès le départ, une prédestination de ce temps-là à une augmentation de la lumière. Ce qui veut donc dire qu'en fait, ce n'est pas du tout les Hashmonaïm qui ont commencé ces histoires-là, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre cosmique. Et puis, dans l'histoire, ça se traduit par des événements historiques qui justifient la fondation de la fête. Mais, attention, si c'est vrai ce que je vous dis là, alors tout ce que je vous ai dit au début du cours tombe à l'eau, parce que j'ai dit que ce n'était pas la lumière qui était le sujet central de la fête, que c'était l'indépendance. Maintenant, on voit que c'est la lumière. Eh bien, c'est très simple. La fête de Hanouka a passé 4 phases différentes. Depuis la création du monde jusqu'au Hashmonaïm, c'était la lumière qui était au centre des événements, qui était l'événement central. Et puis quand il y a eu l'indépendance, c'est l'indépendance qui est devenue l'essentiel, l'histoire de la lumière a été mise de côté. Après, le temple a été détruit. Qu'est-ce qui reste de la fête de Hanouka? Ben, la lumière. C'est pour ça que les Juifs, pendant tout le temps de l'exil, n'ont pas parlé de l'indépendance pour Hanouka, mais ont essentiellement parlé de la lumière. Jusqu'à quand? Hein? Exactement. On va voir après qu'il y a un rapport entre elles. Mais enfin, les deux valeurs, jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la fête de Hanouka de l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka en 1917? Oui. Hein? La déclaration Balfour était avant. Il y a eu, presque, il y a eu la conquête de Jérusalem par le général Allenby. Le général Allenby est arrivé aux portes de Jérusalem le 24 qui se lève, a reçu les clés de la ville et dans un endroit qui se trouve derrière la Tachana Merkazit, il y a une stèle jusqu'à ce jour qui commémore l'événement. C'est fini là-bas? Et donc il y a une fête, là, donc il y a une stèle qui commémore l'événement. Et donc la première nuit passée par Allenby à Jérusalem, c'était le 25 Kislev. Et cette conquête de Jérusalem était très importante parce qu'elle était la concrétisation de la déclaration Balfour qui avait été faite quelques mois plus tôt. Ce qui veut donc dire que le 25 Kislev, Hanouka a retrouvé sa fonction d'indépendance. D'accord? Maintenant, comme tu as si bien dit, il y a ici une alternance de deux valeurs, soit la lumière, soit l'indépendance. Bon, vous allez me dire, c'est à peu près la même chose. L'indépendance est une lumière. Mais c'est en fait beaucoup plus fort que ça. Parce que cette indépendance s'est faite par rapport à quel empire? L'empire grec. L'empire grec est appelé dans la Guémara obscurité, rocher. C'est très bizarre, effectivement. Parce que on dit comme ça que la terre était Tohu, Bohu, Rocher, Tehom. Alors, Tohu, c'est les quatre empires qui doivent dominer pendant l'histoire, qui sont Babylone, qui est Tohu, la Perse, qui est Bohu, Rocher, qui est la Grèce, et Tehom, qui est Rome. Alors, comment se fait-il que les Chachamim ont appelé la civilisation grecque obscurité, alors que, comme tu l'as si bien dit, c'est l'empire de la lumière? C'est-à-dire, il y a beaucoup de lumière qui est venue dans le monde par la Grèce. L'esprit scientifique, la philosophie, la démocratie, l'esthétique, tout ça, ça nous vient des Grecs. Alors, ça serait plutôt un peu obscurantiste de dire que la Grèce, c'est l'obscurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté, c'est le Midrash qui dit que le mot « rocher » dans la création du monde désigne l'Empire grec, qui a obscurci les yeux d'Israël. Alors comment peut-on affirmer une chose pareille alors qu'en fait, de la Grèce nous vient tellement de lumière? La réponse est très simple. C'est parce que nous sommes, nous aussi, une source de lumière, que quand il y a rivalité entre deux lumières, une lumière obscurcit l'autre. Effectivement, ce qui s'est passé au temps de l'Empire grec, il y a eu un remplacement d'une lumière par l'autre. La lumière d'avant était celle des prophètes, de la parole. Et puis, lorsque les prophètes se sont tus, sont apparus les philosophes. Et les philosophes ont pris la place des prophètes. Et là, il y a un problème. C'est que les prophètes et les philosophes, c'est pas du tout la même chose. On va vous expliquer pourquoi. Les philosophes parlent d'une sagesse et les prophètes parlent d'une parole. Une sagesse est universelle par définition. C'est-à-dire, par exemple, la loi de la gravitation universelle est toujours vraie, que l'on sache que c'est Newton qui l'a découvert ou pas. Et même si Newton n'avait pas découvert la loi de la gravitation, les pommes tomberaient quand même. Nous avons des témoignages historiques comme quoi les pommes, même avant Newton, tombaient pas très loin d'ailleurs du pommier. Et pour acquérir la sagesse, il faut s'élever au niveau de la sagesse. Si on a réussi, c'est très bien. Si on n'a pas réussi, la sagesse, elle s'en fiche pas mal. Elle reste dans son absoluté. Par contre, la prophétie est une parole. Une parole s'adresse à quelqu'un. Si le quelqu'un n'est pas là, la parole n'a pas de sens. Donc, quand les prophètes transmettent la parole de Dieu, ils la transmettent à quelqu'un, qui est le peuple d'Israël. Mais à partir du moment où les prophètes se taisent, alors on rentre dans un cosmopolitisme qui fait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la sagesse d'Israël et celle des Goïms. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Grecs ont rencontré la Torah, ils ont trouvé ça extraordinaire et qu'ils ont décidé de faire une fleur à la Torah en la traduisant en grec pour qu'elle fasse partie du patrimoine de l'humanité et qu'elle soit mise sur une étagère d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire, de même qu'il y a la sagesse de Platon, ben, il y a la sagesse de Moïse. Quelle chance ont les Juifs que nous avons enfin traduit ça dans le langage de la culture universelle, parce que comme ça, ça sera sauvé de l'oubli. Donc, Kol HaKavod, les Juifs ont été très bien, ils ont préservé ce livre de sagesse pendant très longtemps, maintenant, ça va enfin faire partie du patrimoine universel. Vous comprenez que cette position est un assassinat pour la Torah. C'est la raison pour laquelle les yeux d'Israël ont été obscurcis. Mais le problème est que c'est peut-être vrai, peut-être que les Grecs ont raison. C'est-à-dire, tant que les paroles des prophètes se faisaient entendre, il y avait une justification au séparatisme des enfants d'Israël par rapport aux Goïm. Mais à partir du moment où il n'y a plus de prophètes, peut-être que c'est les Grecs qui ont raison. Vous comprenez le problème? Peut-être que c'est vrai que ça n'a plus de sens de séparer Israël des nations. Peut-être que leur Torah n'est qu'une philosophie.
Parce qu'il n'y a plus de prophètes.
Oui. Donc ce qu'il a fallu, c'est qu'il y ait un miracle. Le miracle a été la mise en évidence d'une présence divine parmi les enfants d'Israël, même après les prophètes. C'est donc pour ça que c'est tellement important, cette histoire de la fiole. Parce que s'il n'y avait eu que la victoire militaire, on se serait dit les Grecs ont raison. Maintenant, il y a la fiole, nous savons que la victoire militaire était également voulue par la Providence qui a voulu distinguer Israël des nations. Vous comprenez? Jusque-là, vous suivez? Mais très bien. Maintenant, petite remarque subsidiaire. Cette histoire de mettre des lumières à la fenêtre le soir, qui a institué ça? Les Chachamim. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est écrit dans la Gemara? Ah ben que non, pas du tout. Ah pas du tout, pas du tout. La Gemara a dit, non, dans la Gemara, il est dit, quand on raconte l'histoire de Hanouka, on dit que lorsque les Hachmonaïm ont eu la victoire, et qu'ils ont trouvé la fiole d'huile, ils ont institué, à partir de l'année prochaine, Behalel ou Veoda. Ils ont institué les 8 jours de Hanouka avec le Halel et reconnaissance. Il n'est pas dit qu'ils ont institué les lumières. C'est-à-dire que l'institution du Halel a été la première institution des Hachmonaïm. Et après, la Gemara parle des lumières. Et elle parle également de la bénédiction qu'on récite au moment d'allumer, qui est Asher Kideshanu Bemitzvota Vitsivanu Ladlik Hanouka. Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Et la Gemara demande, ce que je vous ai demandé aussi, Echan Tsivanu, où est-ce qu'il nous l'a ordonné? Pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la même question pour la bénédiction du Halel? On dit aussi, Vitsivanu Ligmoreta Halel. Il nous a ordonné de lire le Halel. Alors pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la question pour le Halel? Elle pose uniquement pour les lumières de Hanouka. Tout simplement parce que le Halel, on sait très bien où est-ce que ça a été ordonné. Ça a été ordonné par le tribunal des Hachmonaïm qui ont décidé de faire le Halel. Mais comme il n'est pas dit qu'ils ont fait les lumières de Hanouka, la Gemara demande, « Echan Tsivanu, où est-ce qu'il nous a ordonné ?» Et la Gemara donne 2 réponses. La première réponse, c'est celle que tu as donnée. Il est dit, « Lotasur mikol asher yagidu lecha. » Tu ne dois pas t'écarter de ce que disent les Chachamim. Donc c'est écrit dans la Torah. Donc il nous a ordonné d'écouter les Chachamim qui nous ont dit d'allumer les lumières de Hanouka. Cette interprétation est reprise par Maïmonide, d'ailleurs. Mais il y a une autre interprétation dans la Gemara qui est parce qu'il faut accomplir le verset « She'al avicha ve'yagetra » « Interroge ton père qu'il te dise ce qu'il faut faire. » Ça veut dire que nous allumons les lumières de Hanouka parce que papa les a allumées avant moi. Rien à voir avec les Chachamim. Ça veut donc dire que la première génération de la libération, qui a allumé les lumières de Hanouka, l'a allumée sans faire la bracha. Mais comme j'ai le devoir, selon la Torah, de faire ce que mon père a fait, à partir de la deuxième génération, il y a une bracha, il y a une bénédiction qui nous dit qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il y a eu spontanément un éveil spontané du peuple d'allumer les lumières de Hanouka.
Dès le départ.
Dès le départ. À quel moment, on ne sait pas. Il y a eu un moment. Maintenant, le problème est de savoir d'où est-ce que ça leur est venu cette idée. Je vais vous dire d'où ça leur vient. Il y a un texte dans la Gemara, dans Shabbat, qui dit que lorsque les Goyim interdisaient de faire la circoncision, les Juifs faisaient la circoncision en cachette. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient annoncer qu'il y avait une circoncision le lendemain matin dans cette maison? Il fallait annoncer par un code secret. Et la Gemara dit, on allumait une lumière à la fenêtre. Maintenant, le problème, c'est pas. Pendant combien de temps est-ce qu'on allumait les lumières? Pendant 8 jours, depuis la naissance jusqu'à la circoncision. Combien de lumières? Le premier jour, une lumière, le deuxième, deux, trois, etc. Ça veut donc dire que c'était un usage de l'époque de la persécution qui a été transformé, sublimé, en 8 jours de lumière de Hanouka. Oui? Hein? Tout simplement parce qu'il y a, dans la circoncision, une domination de la nature. La nature nous a fait incirconcis et nous surmontons la nature en circoncisant. C'est pour ça que c'est le 8e jour d'ailleurs. Parce que 8, c'est 7 plus 1. 7, c'est la nature et plus 1, ça fait 8. Et bien, de même, la lumière, quand il y a surplus de lumière dans le monde, c'est qu'on va plus, on domine l'obscurité de la nature pour donner de la lumière. Donc, il y a un rapport. D'ailleurs, il y a des midrashim qui mettent en rapport les 8 jours de Hanouka et les 8 jours de la circoncision. Donc cette hypothèse est tout à fait plausible. Bonne fête.